semaine à ce sujet, je me suis dit que c'est pas le bon moment. Certains savent, je pars à la fin de juin pour plusieurs semaines. Joël a s'occupé de la prédication. Je cherchais quelque chose dans les quelques 5-6 semaines qui me restent. Et en regardant les possibilités pour une série sur les 8 commandements, je me suis dit que je ne peux pas comprimer cela dans le temps qui nous reste. Donc je vais vous prêcher quelques sermons isolés sur des sujets importants dans ces quelques semaines qui me restent avant mon départ. Et aujourd'hui, nous allons considérer un passage de toute première importance qui se trouve à la fin de Luc 10, et nous lisons donc pour cela les versets 38 à 42, un court passage avec une leçon extrêmement critique. Luc nous dit ceci: pendant qu'ils étaient en route, il entra Jésus dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. C'est apparemment Marthe qui est l'aînée, de la manière dont on parle d'elle, comme en lui donnant une place principale. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Vous voyez la scène, dans une pièce de la maison, dans le salon, il y a les disciples de Jésus, il y a Jésus, il y a des amis, Jésus parle, Jésus enseigne, Marie est aussi là, assise au pied du Seigneur, en train d'écouter. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Préparation du repas. Elle survint et dit: Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Premier point, la scène. Remarquez bien que Luc enlève tous les détails de la situation. Il ne nous dit rien de ce que Jésus a dit ce jour-là aux disciples réunis. Il ne nous parle pas des disciples, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé là aujourd'hui, sauf nous savons une seule chose. Nous savons ce qui s'est passé entre Marthe et Marie. Donc, le Saint-Esprit conduit Luc à écarter d'autres détails pour que nous regardions deux sœurs très différentes, qui ont des perspectives très contrastées ce jour-là. Jésus reproche l'une, Marthe, à trouver défend l'autre, Marie a choisi la bonne part. Il fait la part des deux. Et il nous montre qu'il y a une manière de vivre, une voie sur laquelle Marthe s'est embarquée, qui est opposé à la voie que Marie a prise, et les deux voies sont très importantes et très différentes dans leur issue vis-à-vis de Dieu lui-même. Gardez donc bien à l'esprit que toute la leçon que vous allez apprendre aujourd'hui se trouve dans le contraste entre ces deux personnes. Marthe, Marie. La scène, nous y sommes toujours. Regardons ces deux sœurs rapidement, on va les regarder plus en détail tout à l'heure. Peut-être vous êtes Marie, peut-être vous êtes Marthe, Peut-être que vous êtes quelque part entre les deux. Marie. Le texte nous dit que Marie était assise aux pieds du Seigneur, écoutant sa parole. La voilà. Je ne vais pas dire en plus parce que je reviens vers elle à la fin du sermon. Marthe. Je voudrais vous parler d'elle. Marthe, où est-elle ce jour-là? Ce jour formidable où Jésus rend visite, le Fils de Dieu se rend visite, et où est-ce qu'on peut trouver Marthe? Marthe, nous dit Luc, est absorbée par le service qu'elle veut rendre à ses invités. Le texte dit, Marthe était occupée, ou la colombe dit absorbée par les nombreux services. Une autre version, le français courant, dit qu'elle était fort affairée. Vous voyez, vous comprenez son attitude. Vous avez vu quelqu'un dans une cuisine comme ça, absorbé, fort affairé, aux divers soins domestiques. Il faut que le repas soit parfait, parce que Jésus est là. Il faut que le repas soit parfait. Est-ce que vous comprenez Marc maintenant? Ce n'est qu'une affaire de cuisine. La Bible nous raconte un incident qui n'est qu'une affaire de cuisine et nous dit que dans les plus petits incidents de la vie, venez, écoutez bien, se révèlent des choses tellement importantes dans notre cœur et notre position vis-à-vis de Dieu que toute notre voie dans la vie risque de s'avirer. Ah oui, ça se révèle là parfois. Mais le problème est tellement fondamental que ça va affecter toute notre vie. Donc, nous avons là la scène. Et nous allons maintenant voir les symptômes du problème de Marthe, le diagnostic de Jésus et le remède de Jésus. Ok? C'est très facile. Le médecin doit d'abord voir les symptômes. Nous aussi. Regardons bien. Marie fait preuve des symptômes d'un cœur dérouté du Seigneur. Vous avez vu ces symptômes? Numéro 1. Esprit de critique envers les autres. Vous avez vu son attitude? Elle fait irruption dans la pièce. Elle dit, Marie ne fait pas ce qui est bien. Elle ne m'aide pas comme il faut. Donc, elle est fâchée avec sa sœur. Elle accuse sa sœur. Elle critique sa sœur. Deuxièmement, elle accuse et critique Jésus-Christ. Vous l'avez remarqué? Peut-être pas. Elle dit, Seigneur, tu te mets pas en peine de ce que ma sœur ne m'aide pas? C'est-à-dire, toi aussi, tu es encore Jésus-Christ. Tu aurais dû. Elle dit au Seigneur, tu aurais dû. Elle est sûre d'elle. Elle est sûre que sa manière de voir la situation est la juste et la vraie. Et elle est complètement erronée. Esprit critique. Désir, deuxième symptôme, désir de contrôler. Elle commande au Seigneur Jésus-Christ. Elle lui dit, Seigneur, dis-lui de venir m'aider. Elle adresse des ordres au Seigneur lui-même et à travers lui à sa sœur. Avez-vous jamais été comme ça? Troisième symptôme. Elle doute du caractère du Seigneur. Elle ne croit pas que le Seigneur est complètement bon et sage. Elle pense qu'il est en train de louper quelque chose. Ou qu'il ne se met pas en peine d'elle. Il ne se soucie pas d'elle dans la cuisine comme il l'aurait dit. Elle doute même du caractère du Fils de Dieu. Avez-vous fait cela? Quand les choses qu'il fallait avoir comme ceci ne sont pas allées comme ça, vous avez douté du Seigneur. Mais comment est-ce que le Seigneur peut permettre que... Pourquoi? Quatrième symptôme, Jésus l'a décrit comme troublé. Il dit dans ce texte que nous avons lu, Marie, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ça dépend de la version. Tu es troublé par beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas simplement aujourd'hui dans la cuisine. Jésus est en train de dire, beaucoup de choses te font ce que la cuisine t'a fait aujourd'hui. Tu as un problème partout, elle est sortie dans la cuisine, mais ton problème c'est que tu es troublé, agité par beaucoup de choses. On te connaît comme ça, on sait comment tu es. Dans quelle situation, ou celle-ci, ou celle-là, nous savons que les choses te mettent sur les nerfs assez facilement. Cinquièmement, le médecin doit aller jusqu'au bout, excusez-moi. Cinquièmement, elle est une personne discrète de l'essentiel, détournée dans son attention de l'essentiel et braquée sur le secondaire. Le Christ est dans sa maison. Et elle pense à la perfection du repas. Quelle distraction malheureuse. Le mot que certaines versions traduisent, troublé, je ne sais pas si c'est inquiété ou agité ici, j'oublie lequel, mais signifie littéralement tirer autour ça et là. Tirer autour ça et là. Elle est un peu partout sauf là où il faut être. N'est-ce pas? Absorbée, affairée au service. Et elle oublie une chose, Jésus-Christ est venu chez elle pour lui parler, pour l'appeler à être avec elle et s'entretenir avec elle. Dernier symptôme. Oui, c'est le mot agité maintenant. Oui, l'autre troublé était plutôt le mot inquiète dans ma version du Colombe. Mais le mot agité signifie un tumulte. Ce n'est pas exactement une attitude intérieure, mais la manière dont cette attitude s'exprime. En fait, dans le texte, la Bible dit elle survint et dit. Elle survint, vous l'avez compris? C'est-à-dire, elle fait irruption dans la salle. Mademoiselle Tumulte arrive. Elle arrive tumultueusement. Avant qu'elle ouvre la bouche, on sait déjà que ça va pas. La manière dont elle survient, oh, qu'est-ce que Marc va nous dire cette fois, n'est-ce pas? C'est un peu ça. La pièce était plus calme. Et puis, la cocotte minute explose. Seigneur, tu ne te mets pas en peine pour moi. Dis à ma sœur. Et puis, toute l'ambiance formidable de cet entretien intime de Jésus avec ses disciples c'est cassé. Elle a un effet sur tout le monde. C'est négatif ce jour-là. Ok. Nous avons vu les symptômes, mais les symptômes, c'est pas le diagnostic. Vous savez la différence. Le symptôme, pour le médecin, l'amène à un diagnostic. Les symptômes, c'est ce que le problème cause, mais c'est pas le problème. Jésus va maintenant diagnostiquer la racine. Pourquoi elle est comme ça et pourquoi elle agit comme ça. Observez avec moi d'abord ce que Jésus ne dit pas au sujet du problème de Marthe. Jésus ne la reproche pas pour tous ses péchés spécifiques qu'elle vient de commettre. C'est intéressant. Elle ne dit pas, d'abord, tu étais critique et accusatrice. Deuxièmement, tu voulais contrôler la situation. Troisièmement, tu... Non. Ça, c'est des symptômes. Jésus va aller à la racine. Marthe, tu t'inquiètes et t'affites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. J'en viens à expliquer cela tout à l'heure, mais ça fait qu'il y a un problème dans la manière dont Marthe pense et voit la vie. Et cela produit tout ce que vous avez vu avec moi. Donc il ne va pas traiter tout. Ce serait trop pour elle. Mais il va toucher la racine. Deuxièmement, Jésus ne fait pas attention à sa faute, il ne minimise pas sa faute, et il ne traite pas sa faute de manière sentimentale. Notre monde actuel, très influencé par la psychologie, parce que nous vivons en France dans une société psychologisée, excusez-moi, pas bien prononcé, mais comprenez. Souvent, je dis souvent, je n'ai pas dit toujours, mais souvent dans la psychologie moderne, la posture, c'est de minimiser, surtout de faire de la personne une victime de ton passé, de ses circonstances, de traiter, de minimiser, de couvrir un peu. Combien de psychologues vont aller à quelqu'un et dire c'est simplement que tu es fautif, que tu ne veux pas pardonner. Oui, quelqu'un t'a fait un tort, mais ce problème de ta dépression, c'est toi. Tu as besoin de te repentir. Non. On va faire tout sauf cela. Et mettre la personne dans la posture de victime, c'est assurer qu'ils ne vont jamais s'en sortir. Voilà. Mais Jésus n'est pas comme ça. Il est ferme avec Marthe, même s'il est aimant. Regardez, Marthe. Et devant tout le monde, il va le dire. Hein? Ça, c'est pas très sentimental. Hein? Devant tout le monde, il va le dire. Tu es troublé et agité par beaucoup de choses. Il le dit devant tout le monde parce qu'elle a fait cet acte devant tout le monde. Un passé public, un reproche public. Mais plein d'amour. Marthe. Tu es troublé et agité par beaucoup de choses. Pas de sentimentalité, tout droit, la vérité. D'accord? Troisièmement, Jésus ne justifie pas le péché de Marthe en disant que c'est son caractère. Vous avez entendu cette phrase? Combien de fois, chers amis, j'ai entendu cette phrase mensongère, rebelle et tellement mauvaise. Quand on parle à quelqu'un d'une faute, même une faute habituelle, la personne dit « mais ça c'est mon caractère ». Et de telles personnes n'arriveront jamais à changer. Ce n'est pas ton caractère, c'est ton péché. C'est ton péché habituel. Ce n'est pas un truc qui est inné. Dieu t'a fait comme ça. Non, Dieu t'a pas fait comme ça. Tu es devenu comme ça en pêchant d'une certaine manière, en réfléchissant de manière mensongère, ne croyant pas à la vérité, et tu t'es fait dans un sens un caractère, mais ce caractère, tu peux en être transformé. Si tu ne peux pas être transformé là où tu fais quelque chose d'habituel, ben, tout ce qui peut changer en toi, c'est des trucs superficiels. C'est quand des effets caractériels changent que tu changes. Et certains disent, voilà, il est vraiment différent. Et c'est là où le Christ nous change. L'homme impatient, habituellement impatient, qui dit avant, ça c'est mon caractère, qui devient patient. Vous voyez? Ça c'est la merveille de l'Évangile. Chers amis, je vous supplie en tant que pasteur, au nom de Christ et pour sa gloire, ne dites jamais, ne pose jamais au sujet de vos péchés comme ça. C'est mon caractère. C'est votre péché qui peut être transformé. Jésus, je suis en train de vous dire ce que Jésus ne fait pas. Je peux continuer juste deux choses de plus, et puis on va arriver à la solution. Jésus ne justifie pas le péché en disant que le problème, c'est les circonstances de Marthe. Ah oui, Marthe, c'est vrai que, en tant que sœur aînée dans une famille sans mari, et puis qu'il y a eu une semaine surveillée, oui, nous avons tous des circonstances difficiles parfois. Mais les circonstances ne sont jamais la raison pour une mauvaise attitude et un mauvais caractère. Jamais. Les circonstances, c'est comme quand je prends le tube de dentifrice, j'ouvre et j'appuie, qu'est-ce qui arrive? De la pâte dentifrice sort. Pourquoi? Parce que j'ai appuyé? Non. Parce qu'il y avait de la pâte de dentifrice dedans. Parce que s'il n'y en avait pas dedans, je pouvais appuyer tout ce que je voulais, ça ne serait pas sorti. C'est ça? Et alors, quand j'appuie, ça c'est les circonstances. Quand les circonstances vous pressent, ce qui est au-dedans va sortir. D'accord? Ce n'est pas les circonstances qui l'ont fait, c'est les circonstances qui l'ont révélé. Ce qui était déjà en toi. Ça va? Ok. Dernièrement, Jésus ne dit pas que la clé du changement se trouve dans son passé, qu'il faut fouiller et comprendre. Imaginez Jésus en train de dire ceci. Oui, Marthe, le problème c'est que tu as eu un père passif et une maman dominatrice. Et à cause de cela, tu es devenu, il dit rien au sujet de son passé. Il parle dans le présent. Il dit, Marthe, tu es au présent. Elle n'a pas besoin de savoir comment elle est devenue ça. Ce n'est pas important. Elle a besoin de comprendre l'erreur qu'elle fait dans sa manière de penser, de croire, de désirer aujourd'hui, parce qu'elle peut se repentir de ça. Tu ne peux pas changer ton passé. Mais tu peux changer la manière dont tu penses et réagis à la vie. Donc, il y a de l'espoir. Si c'était passé, ton passé, il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu dois rester comme tu es, parce que tu as été marqué à lui. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons besoin de regarder ce que nous sommes et ce que nous faisons là maintenant. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il est possible que Marthe ait été affectée par son père et sa mère et d'autres circonstances. Bien sûr, nous sommes tous affectés, mais Marie a grandi dans la même maison. Elle a répondu différemment aux mêmes circonstances. Elle a forgé un caractère différent. Ce n'est pas ce qui m'arrive, c'est ma réponse à ce qui m'arrive. Je peux vous donner des cas incroyables de cela. Je connais une famille où le père était incroyablement dominateur. Il y a 4 enfants. Il y en a 2 ou 3 qui sont très marqués par cela. Et celui qui a reçu le plus de colère de cet père, qui était plus dominé par lui parce qu'il avait un handicap, c'est lui qui est complètement libre, qui n'a pas été affecté. Parce qu'il a répondu différemment. Il a réagi différemment à son père. Bien. Maintenant, nous allons voir comment Jésus s'y prend avec Marc. On a vu ce qu'il n'a pas fait, c'était nécessaire, parce que beaucoup de nos voies que nous prenons sont mauvaises. Qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, l'amour. Marc, Marc. Quand Jésus utilise le nom 2 fois, c'est toujours un signe d'affection. Il va dire... un sol de Tarse sur la route de Damas. Sol, sol, il est dur pour toi de rejeter contre les légions. Et il aime Marc. Il l'aime dans son péché. Marc, Marc, il a pitié d'elle. Deuxièmement, Jésus a dit que le problème de Marc n'est pas circonstanciel, mais moral. C'est-à-dire, son problème et ton problème n'est pas quelque chose en dehors de vous, dont vous êtes victime, mais quelque chose en vous. C'est vous qui êtes le problème. Et il dit, Marc, Marc, tu es. C'est ce que tu es. C'est ça le problème. Et dès que je peux prendre responsabilité, je peux changer. Mais mon mari, tu ne comprends pas, il est tellement provocant, ma femme était mes enfants. Oui, je comprends bien, je comprends bien. Mais je peux aussi vous montrer d'autres personnes dans la même circonstance qui réagissent différemment. Et vous le pouvez aussi. Ça peut demander un grand changement dans votre cœur, mais le Christ est capable d'effectuer cela. Donc l'amour, le problème est moral, donc on voit, troisièmement, et il dévoile la racine. Regardez bien le verset 41 et 42, Jésus nous donne 2 clés pour comprendre le problème à la racine chez Marc. 2 choses, regardez les 2. Le Seigneur lui répondit, Marc, Marc, première chose, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. 2e chose, il dit, or, une seule chose est nécessaire. Est-ce que vous comprenez? Jésus est en train de dire, Marc, tu es une personne qui croit dans ta tête quelque chose qui n'est certainement pas vrai. Tu penses que beaucoup de choses sont nécessaires. Tu t'agites tellement et tu te troubles pour eux. Il faut que le repas soit juste comme ça. Il faut, c'est une nécessité. Et tu fais ça beaucoup dans ta vie avec plein de trucs. Or, la vérité, que tu ne crois pas, c'est que une seule chose est nécessaire. Marc, tu as besoin d'une seule chose et c'est moi. Tu as besoin d'être dans une relation étroite comme Marie, assise à mes pieds, en relation avec moi. Marie a quitté la cuisine parce qu'elle savait que, au fond, je peux perdre un bras, je peux ne pas avoir une maison complètement nickel, je peux avoir un repas avec un truc qui ne va pas, mais si j'ai Christ proche à moi, qui m'aime, le Seigneur des Seigneurs, qui qui m'a ramené à Dieu, que je vis en lui et pour lui. Il est venu me chercher, il m'a appelé. Tu es à moi, tu es pour moi. Je t'aime, écoute mes paroles, suis-moi. Alors, si j'ai ça, même si les haricots sont un peu brûlés et cramés, vous voyez? C'est une manière de penser qui est erronée. Mais combien il est facile pour nous de tomber dans les mêmes travers, n'est-ce pas? Voilà quelqu'un au travail qui a... C'est le patron, c'est vous, ou c'est un collègue. Il a mille choses qu'il faut être exactement comme ça. N'est-ce pas? Ou bien une maman et l'épouse qui vivent que la maison soit exactement comme ça. Ou certains comportements des enfants dans des détails pas possibles. Ou bien quelqu'un qui dit, je dois avoir, c'est une nécessité, la popularité. Je dois avoir la place suprême dans le cœur de tel ami. Pour que je sois sa meilleure amie, c'est pas la deuxième. Ouh là là, tu vas causer des problèmes comme là. Tu peux vouloir être proche à quelqu'un, mais tenir à ça comme une nécessité, dès que tu tiens comme une nécessité, tu peux pas la faire. Va causer des problèmes. Et tu vas t'éloigner de Dieu. Je dois avoir telle position au travail. Je dois avoir tel niveau de vie. Je dois avoir telle reconnaissance et l'attention de la part des autres. Je dois avoir tel plaisir à tel moment, c'est-à-dire après le travail, enlever les chaussures, masque de foot. Je dois avoir ça. Ouh là là, tu vas causer des problèmes. Si ton bonheur dépend d'une chose dont on peut s'arracher, c'est un problème. Combien de choses sont absolument nécessaires pour toi? Maintenant, on va quitter Marthe pour finir avec Marie. Regardez bien ce que Jésus dit au sujet d'elle. Elle dit une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Maintenant, je dois vous dire que parfois on explique bien la leçon de ce passage en disant que Marthe c'était une activiste et Marie c'est une contemplative. Et moi je suis une Marthe. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui dit « Je suis une Marie ». Naturellement, je tends à aller auprès du Seigneur, à écouter ça. Je n'avais entendu ça. Mais ce n'est pas la différence. Marie n'est pas une contemplative. Le texte nous dit « Ma soeur, Marthe a dit que ma soeur me laisse seule pour servir. » Et le verbe qui est dans un temps de, comme le passé simple, il me quitta pour ne m'aide plus. Ça veut dire que Marie était dans la cuisine. Elle l'aidait. On peut dire que c'est bien beau d'être au pied du Seigneur alors que la grande sœur est en train de travailler dans, c'est pas ça. Elle a bouffé dans la cuisine, jusqu'au moment où les choses étaient suffisamment faites pour un bon repas, mais pas parfaitement faites. Vous voyez? Et un appel plus important l'a attiré. Il n'est pas nécessaire que le repas soit au énième degré. Il est nécessaire que je sois, que je réponde au Seigneur qui m'appelle à lui. Donc, Marie, tout simplement, pour vous et moi, est un exemple de quelqu'un qui a donné le statut de nécessité absolue à une seule chose dans sa vie. C'est là que je voulais venir aujourd'hui. Où est-ce que nous en sommes? Parce que de jour en jour, et ça va se voir dans la cuisine, ça va se voir dans... Moi, je suis venu ce matin, j'ai vu que le sol avait besoin d'aspirateur, mais j'avais un choix. Vraiment prier, me mettre avec le Seigneur. Bon, on prête un peu pas ça. Peut-être que j'ai fait l'erreur de m'occuper plus du sol que de ma communion avec le Seigneur avant le culte. Oui, j'ai commis cette erreur. Mais faut pas le faire aujourd'hui quand même. N'est-ce pas? Parfois, nous, dans les petites choses de la vie, tous les jours, toutes les semaines, on va être quelqu'un qui a choisi, comme Marie, qui a choisi la bonne part. Oui, il y a beaucoup de choses que nous devons faire à un certain niveau, mais pas des nécessités absolues. N'est-ce pas? Je ne suis pas en train de vous dire que vous pouvez laisser votre enfant à l'école sans aller le chercher. Il y a des nécessités à un certain niveau. Mais vous comprenez, dans les choses, il y a une sorte de citadelle dans ton cœur. Où tu te dis, je dois avoir ça. Toute autre chose est secondaire par rapport à ça. Je dois avoir. Et dans cette citadelle du cœur, Marthe avait plein de choses dans la citadelle. Il me faut ça, et ça, et ça. Et Marie avait fait la place. Et avait dit, Seigneur, toi seul, tu es la seule nécessité absolue. Je suis prêt à souffrir. Je suis prêt même à quitter la cuisine en sachant, je connais ma soeur. Je sais ce qui va arriver. Elle va venir me gronder. Mais j'ai fait mon choix. Il est nécessaire, coûte que coûte, que je sois auprès du Christ et que j'entende ses paroles. Comment devenir comme ça? Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. On ne tombe pas dedans dans une vie comme celle de Marie. On ne tombe pas dedans comme Astérix. N'est-ce pas? Vous n'allez pas tomber dedans. Vous allez choisir. Vous allez arriver à une détermination, à une décision déterminée. J'appartiens à Christ. Il m'a racheté par son sang. Je suis à lui. Et lui seul, il a cette place de nécessité absolue dans ma vie. Mais comment est-ce que tu peux arriver à ce choix? Ça vient d'une conviction, de quelque chose que tu crois. Marie a choisi quoi? La bonne part. C'est-à-dire, elle voyait la communion avec Christ comme la bonne part. La chose qui était meilleure que toute autre chose. Et quand vous arrivez par la grâce de Dieu à voir que être appelé par Jésus-Christ et aimé par le Fils de Dieu, ramené au Père, réconcilié à Dieu, vivant avec lui dans son amour, c'est ça la vie éternelle. Toi aussi, tu feras la même décision. Tu diras ça. Je choisis coûte que coûte. Et quand ce choix est fait et maintenu, parce qu'une fois fait, il faut le maintenir, parce que Marc est croyant, elle est chrétienne. Et vous voyez, il est facile que cette place qu'on laisse dans la citadelle quelques rivaux, n'est-ce pas? De temps en temps. Et il faut faire vie dans le temps, n'est-ce pas? Mais il faut nourrir, il faut soutenir, il faut défendre cette place unique dans le cœur, en croyant, en se rappelant, en voyant combien Christ vaut mieux que toute autre chose, et que de toute façon, si tu vas chercher Christ et être proche de lui, il va falloir dire non à beaucoup de choses. Et Dobie Tozo, qui était un grand pasteur du siècle passé, a pu dire... C'est pas nécessaire que vous puissiez dire ça, mais il a dit, je vais passer plus de temps seul avec Jésus-Christ qu'avec toute autre personne humaine, y compris ma femme. C'était un grand homme de prière qui on pouvait le rencontrer à 5 heures le matin, chaque jour, dans un petit lac vers Chicago. Et il était là. Il était là, sur son visage. Bon, vous n'êtes pas pasteur, vous n'avez pas autant de temps que lui, mais vous pouvez aussi chercher Jésus-Christ et lui donner la place primordiale. Dernière chose, quand vous le faites, toutes les autres choses dans votre vie prendront leur bonne place. Une place secondaire, ou si vous ne les avez pas, ça ne va plus vous mettre en l'air. Quel bonheur! Quel bonheur et liberté pour vous de pouvoir subir des revers, des « Ah, j'aurais pas voulu, ouais, ça c'est pas génial », mais de dire « J'ai quand même ma bonne part. » Et personne ne peut me l'arracher. Et vous avez une joie essentielle que personne ne peut prendre. Ça, c'est la voie chrétienne. Que Dieu nous bénisse. Nous allons chanter ensemble dans le carnet le numéro 24.
Seigneur notre Dieu, nous considérons dans une grande grâce que tu as accordée à cette maison en t'arrêtant, en entrant avec toute ta bénédiction et ta parole de vie. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous accordes aussi. Ta présence. Et Seigneur, nous avons fait l'expérience en choisissant la bonne part. la communion avec toi, la soumission, l'écoute de ta parole, de tes conseils. Bien des choses changent, tu donnes la bénédiction, tu donnes la réussite. Et même ce qui peut-être prend beaucoup de temps, tu bénis et cela est fait rapidement. Et comme il faut, Seigneur, car tout dépend de ta grâce. Nous te remercions, Seigneur. Merci parce que tu nous as rappelé ce matin. Et nous voulons toujours à nouveau aussi orienter nos pensées, nos cœurs vers la bonne part. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, béni. Amen.
Wow.
De toute ta bonté et toute ta grâce, pour que ton enfant retrouve à nouveau dans la vie et la situation, et bien je sache tout à nouveau me rappeler ce que j'ai entendu ce matin, de le mettre en action et me tourner vers celui qui est la vie, parce que la voix de l'esprit de Dieu et la vie qui m'arrache du dessin de la loi et de la mort. Tu m'as fait majesté, merci toi. Seigneur, merci parce qu'alors nous rentrons dans ce que tu préfères avant. Et nous sentons pour ce que nous gagnons en toi. Et quand nous connaissons la différence, nous n'avons plus d'excuses pour nous retrouver dans cette attitude et cette respiration. Seigneur, je t'en prie. Vraiment, ajoute à notre esprit. Et allume le feu rouge pour que nous sachions nous tourner vers toi en vérité et ne pas croire à tous ces mensonges qui nous font nous ajouter. Merci Père de nous éclairer de cette manière ce matin. Amen.
Seigneur, nous voulons te confesser que souvent cette agitation, ce problème vient de notre justice propre, notre justice de soi. Martha, vous voulez sans doute fonder une identité sur sa bonne cuisine. Elle pensait qu'elle était quelqu'un si le repas était parfait. Ô Seigneur, apprends-nous à voir que nous sommes quelqu'un simplement parce que toi, tu nous as aimés. Et c'est tout. Aide-nous, Seigneur, ne pas chercher à fonder une identité sur ce que nous arrivons à faire, mais avoir cette douce joie qui vient du fait que notre gloire, c'est que tu nous fais grâce et tu nous aimes. Bénis-nous aujourd'hui, Seigneur, et fais-nous reposer dans cette douce et bonne part qui est ton amour envers nous. Mets-nous à tes pieds pour écouter tes bonnes paroles de grâce aujourd'hui et pour toujours. Amen. Thank you.
Thank you.
No, no, no.